La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Je vous invite, là où c'est possible, à vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père, quel doux privilège qu'est le nôtre de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, alors que nous sommes en ce saint jour de sabbat que tu as mis à part pour nous et qui est ce cadeau que tu as fait à notre humanité. Et tant que Père Céleste, nous voulons en cet instant nous disposer à entendre ta parole et à la comprendre. Et alors pour cela, nous te demandons de bien vouloir toucher nos cœurs, que toute distraction, qu'elle soit physique, psychologique, de quelque nature qu'elle soit, puisse être supprimée, annulée au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse recevoir la nourriture dont il a besoin pour ce temps-ci. Et je te prie pour ton serviteur, Père, touche ses lèvres, touche son intelligence, touche toutes les parties de son être qui seront en activité durant cette heure pour délivrer le message à ton peuple, afin que tu sois glorifié en toutes choses et que ton nom soit exalté. Et c'est en Jésus, Père, que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous rendre avec moi dans notre texte de base qui se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, verset 12, où nous lisons « C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoi que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » La vérité présente, tel est le thème de cette présentation. Le terme traduit par « présente » dans 2 Pierre 1, verset 12, vient du grec par « émi », lequel est ici conjugué au présent et à la voix active. En grammaire, la voix active exprime que le sujet est celui qui accomplit l'action décrite par le verbe. Je reprends. En grammaire, qui est un domaine de la langue française, d'accord, ou de la langue tout simplement, parce que la grammaire n'existe pas que en français, mais le mot grammaire est français, donc s'applique à la langue française, d'accord. En anglais, c'est grammar, ok. En grammaire, la voix active exprime que le sujet est celui qui accomplit l'action décrite par le verbe. Et donc, appliqué à ce verset, nous comprenons qu'il s'agit en réalité de la vérité qui est présente. Considérons cette définition du Robert Dictionnaire de présent. Qui existe, se produit à un moment, à l'époque où l'on parle, ou dont on parle. Les circonstances présentes, actuelles, l'instant présent. Lorsqu'on parle de vérité présente, il ne s'agit pas tellement de la vérité qui avait été mise au placard et que l'on nous présente, mais plutôt de la vérité qui nous concerne dans le présent, c'est-à-dire qui existe ou se produit dans le présent. La vérité à laquelle Pierre se référait ici était l'ensemble de l'enseignement chrétien dans lequel les croyants avaient été instruits et, bien évidemment, qu'ils croyaient, auxquels ils adhéraient. En Éphésiens, chapitre 1, verset 13, nous lisons « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » D'accord? Donc, remarquez qu'il nous parle ici le fait d'avoir entendu, d'accord, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Mes amis, il faut bien comprendre quelque chose. La vérité présente, c'est l'évangile. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, mes amis, mais notez bien ça dans un coin de votre esprit, mes amis. La vérité présente, ce n'est pas quelque chose de moins que l'évangile. L'évangile qui, lorsque nous y croyons, nous scelle, dit Paul aux Éphésiens. Donc, notez aussi que le scellement est rattaché ou dépend du fait d'accepter la vérité présente. OK? Et vous pouvez aussi comparer avec Colossiens 1, verset 5 et 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Le présent des 12 apôtres qui vécurent il y a près de 2000 ans est pour nous le passé. Et notre présent était pour eux le futur. La vérité qui nous concerne, alors, est-elle exactement la même que celle qui les concernait? Étant donné qu'il est celui qui annonce la parole de Dieu, toutes les vérités, mes amis, habitent en Jésus-Christ. En Jean chapitre 1, verset 14, nous lisons « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et c'est pour cela que Jésus dit qu'il est la vérité. En effet, en Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » La bonne doctrine, c'est-à-dire l'enseignement pur, a pour objectif de nous rapprocher de Christ par une révélation claire de sa personne et de son œuvre. En Éphésiens chapitre 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, » déclara l'apôtre Paul aux Éphésiens. Ils avaient appris à connaître le Christ. Ce qui montre que l'enseignement, comme je le disais précédemment, a pour objectif de nous apporter une compréhension, une révélation claire de la personne de Christ et de son œuvre. Et Paul nous dit aussi que, en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Notez que Paul ne dit pas que Jésus-Christ fait la même chose hier, aujourd'hui et demain, mais qu'il est le même. Qu'il est le même. Mes amis, être et faire sont deux choses différentes. Il y a 5 ans, j'étais Jean-Christophe Bolot. Aujourd'hui encore, je suis Jean-Christophe Bolot. Et demain, si Dieu me prête vie, je serai encore Jean-Christophe Bolot. Merci Hélène. Mais voyez-vous, il y a 5 ans, j'œuvrais en tant que géomètre topographe. Alors qu'aujourd'hui, j'œuvre dans le ministère de la prédication de la parole de Dieu en tant que pasteur et évangéliste. Et demain, si Dieu me prête la vie, j'aspire à continuer dans cette œuvre. Je suis la même personne, mais je n'occupe pas la même fonction il y a 5 ans et aujourd'hui. Et c'est ce qu'il en est pour Jésus-Christ, mes amis. Il a toujours été, est et sera toujours le Fils de Dieu. Mais il fut un temps où, avant de venir sur terre, il n'avait pas la nature humaine. En Hébreux 10, verset 5, nous lisons « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Quand il est entré dans le monde, il a eu la nature humaine. Mais avant, il n'avait pas la nature humaine. Donc, il y a bien eu un temps où il n'avait pas la nature humaine et un temps est venu où il l'a eu, en fait. D'accord? Il fut un temps où il vécut personnellement sur terre. En Jean 10, verset 23, « Comme Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. » Mes amis, il fut un temps où Jésus se promenait dans le ciel. Mais il fut un temps où il se promenait sur terre. D'accord? Il fut aussi un temps où il était mort. Jean 19, verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit, mes amis. Ce qui signifie en d'autres termes qu'il mourut en fait. Il fut aussi un temps où il ressuscita des morts. Matthieu 28, versets 5 et 6. Or, l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » Il fut un temps où il monta au ciel. En Actes 1, versets 9 à 11, nous lisons, « Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait. » Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Mais à l'heure où nous parlons, Jésus est-il sans la nature humaine? Est-il toujours personnellement sur la terre? Est-il toujours mort? Est-il en train de ressusciter? Est-il en train de monter au ciel? Non! Il est toujours la même personne, mais il n'est pas dans la même situation et n'occupe pas la même fonction. Par conséquent, la vérité qui est active comme Jésus, car Jésus est la vérité, d'accord? Mais quand je dis la vérité qui est active comme Jésus, je parle de l'enseignement, en fait, qui nous rapporte à Christ, eh bien, aura pour notre temps des caractéristiques différentes et ou supplémentaires à celles d'hier, car la vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Je reprends cela. La vérité présente se rapporte à l'œuvre et au ministère exercé par le Christ dans le présent. Par conséquent, la grande question que nous devons nous poser maintenant est quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent? Voici la grande question, mes amis. C'est quelle œuvre la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, est-elle en train d'accomplir dans le présent, maintenant, en ce moment? Après être monté au ciel, la Bible nous dit que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. En effet, en Hébreux 8, versets 1 et 2, nous lisons « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Amen. Le sanctuaire terrestre et ses services étaient une image et ombre du sanctuaire céleste et de ses services. En effet, Paul déclare en Hébreux 8, versets 4 à 6, « Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établi sur de meilleures promesses. Le sanctuaire terrestre était composé de deux appartements. Combien? De deux appartements. Le lieu saint et le lieu très saint ou saint des saints. On entrait quotidiennement dans le lieu saint, tandis que le lieu très saint n'était accessible qu'un seul jour par an. Et les services du sanctuaire terrestre se décomposait essentiellement en deux parties. Premièrement, le service quotidien pour l'administration du péché dans le lieu saint. Et deuxièmement, le service annuel, le jour des expiations, qui était considéré comme un jour de jugement et qui avait lieu dans le lieu très saint ou qui se produisait dans le lieu très saint. Et Paul nous le dit en Hébreux 9, versets 1 à 7, « La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Et ils étaient appelés le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le saint des saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Étant donné que le sanctuaire terrestre était l'image de celui qui est dans le ciel, et qu'après les services quotidiens dans le lieu saint, il fallait encore que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, il convient de conclure qu'après être entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste immédiatement après son ascension, il fallait encore que le Christ exerce un ministère dans le lieu très saint de ce même sanctuaire céleste. Et c'est ce que nous révèle le livre de l'Apocalypse, qui n'est autre que la révélation de Jésus-Christ, au chapitre 11 et au verset 19. « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Je vais juste faire une petite pause ici pour simplement souligner quelque chose. Notez que Jean a vu le temple de Dieu s'ouvrir, non pas sur terre, mais dans le ciel. Donc, mes amis, il y a bel et bien un temple dans le ciel. Ok? Je prends le temps d'insister là-dessus parce qu'il y a des hommes habillés en costard-cravate, qui, derrière le pupitre, disent aux gens qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel. Mais permettez-moi de vous dire que l'homme qu'on a voulu brûler en le mettant dans un bain d'huile, d'accord, et qu'on n'a pas réussi à l'exterminer comme ça, et qu'ils l'ont ensuite exilé sous l'île de Patmos, et qui a vu des visions, que Dieu lui a donné des visions, il a vu qu'il y a un sanctuaire, un temple dans le ciel, mes amis. D'accord? Ok? Et lorsqu'il a vu ce temple-là, notamment à ce moment-là, il a vu l'arche de l'Alliance apparaître. Or, l'arche se trouve dans le sanctuaire terrestre, dans quel appartement? Le deuxième, le lieu très saint. Ce qui montre qu'il y a bel et bien deux appartements dans le ciel. Là encore, je prends le temps d'insister, car les mêmes messieurs en costard-cravate, aujourd'hui, d'accord, il y a des pasteurs qui, dans des églises okay, protestantes, que ce soit baptiste, pentecôtiste, adventiste, disent qu'il n'y a pas de sanctuaire dans le ciel et que même il n'y a pas deux appartements. Or, mes amis, ce n'est pas le témoignage de l'Écriture. Ce n'est pas ce que dit il est écrit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. D'accord? J'arrête de souligner ici et je poursuis la présentation. Le livre de l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ dans l'œuvre qu'il a entreprise après son ascension. Or, d'après cette révélation, il y eut un temps où l'arche de l'Alliance, laquelle se trouve dans le lieu très saint, parut dans le temple ou sanctuaire céleste. Ce qui indique que Christ est passé du lieu saint vers le lieu très saint à la fin de la période indiquée en Daniel 8, verset 14. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. OK? La raison pour laquelle cette période de temps est une prophétie symbolique s'appliquant à l'ère chrétienne est que le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par an dans le lieu très saint, c'est-à-dire tous les 360 jours, ce qui est la durée d'une année juive. Et s'il fallait la prendre littéralement, cette période de 2300 jours correspondrait à 6 ans et 4 mois, ce qui dépasse largement 360 jours. Mais selon la règle d'interprétation contenue en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, c'est-à-dire 360 jours dans le calendrier hébraïque. Par conséquent, les 2300 jours prophétiques équivalent à autant d'années littérales. Au chapitre 8 de Daniel, aucune date n'est donnée comme point de départ de cette période prophétique. Mais l'étude du verset 25 du chapitre 9 montre qu'il s'agit de l'an 457 avant Jésus-Christ. Ce qui, lorsque nous l'ajoutons à 2300 soirs et matins ou 2300 années littérales, nous amène à l'an 1844 de notre ère. Mes amis, nous sommes en quelle année? En 2020, OK? Et il y a 176 ans, Jésus-Christ entama la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. L'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service quotidien fut décrit comme suit en Lévitique 4, versets 27, 28 et 35. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau du sacrifice de prospérité et il les fera fumer sur l'autel à la manière des sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Ainsi, le sacrificateur fera quoi? L'expiation pour cet homme et le péché qu'il a commis. Et il lui sera quoi? Il lui sera pardonné, est-il écrit. Donc, notez que l'objectif ici, c'était de faire une expiation qui pourvoyait au pardon des péchés. OK? Maintenant, l'objectif de l'œuvre qui se faisait dans le service annuel du sanctuaire terrestre fut décrite comme suit, en Lévitique 16, versets 29 et 30. « Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois. Vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Notez ici l'objectif. Il est différent ici. C'est une expiation qui pourvoit non pas au pardon, mais cette fois-ci à la purification. Mes amis, Dieu désire non seulement nous pardonner, mais également nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu désire non seulement nous pardonner, mais également nous purifier de toute iniquité, mes amis. Et c'est ce que Jean nous dit en 1 Jean chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, mes amis. » Voici le verset qui résume les deux services du sanctuaire terrestre, mes amis. Voici le verset du Nouveau Testament qui nous résume l'objectif des deux services du sanctuaire, d'accord? c'est le pardon et la purification, mes amis. Le pardon et la purification. Autrement dit, la justification et la sanctification. OK? Notez bien cela. C'est l'objectif de Dieu. C'est l'objectif du plan du salut, mes amis. Il y a deux parties, pardon et purification. En plus du temple céleste, il y a encore un temple terrestre aujourd'hui. Vous savez ça? 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Pasteur Boulotte, tu me dis que je vais être détruit, que Dieu va me détruire si je ne respecte pas mon corps qui est son temple. Oh non, je ne t'ai rien dit, mon frère, ma sœur. C'est Dieu qui te l'a dit, que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu dans lequel il désire habiter par son esprit. C'est pour cela que Dieu nous demande à toi comme à moi, de prendre soin de ce temple. D'accord? Il désire le purifier. Mes amis, l'œuvre ayant lieu dans le sanctuaire céleste doit être parallèlement menée dans le sanctuaire terrestre de nos vies, de nos corps, de notre âme, de notre être. Vous comprenez cela? L'œuvre qui a lieu dans le ciel en ce moment, que Jésus est en train de mener, la vérité qui est présente en ce moment dans le ciel, mes amis, doit aussi être présente dans ma vie. Autrement, ce serait un mensonge présent et pas une vérité présente. Combien d'entre nous veulent un mensonge présent? Oh, personne. Très bien. Alors, mes amis, nous devons être très attentifs. 1 Corinthiens 3, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Notez qu'il n'est pas dit ici que la quantité que vous mangez, bien qu'on sait que trop manger n'est pas bon. Mais ici, Paul ne parle même pas de la quantité. Là, il parle de la qualité. Il dit « soit que vous mangiez ». Oui, mes amis, étant donné que notre corps est le temple de Dieu, ce que nous y mettons peut soit favoriser le fonctionnement de ce temple, du service de ce temple, ou soit, eh bien, le souiller, en fait. Soit empêcher à Dieu d'agir par son esprit. Si je mange une nourriture intoxicante ou excitante, comment l'Esprit de Dieu pourra me parler? Il s'agit donc là d'une œuvre qui touche tant le domaine physique que spirituel. En effet, en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu ?» et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est cela, mes amis. Cela fait partie de la vérité présente, d'accord? La façon dont nous traitons notre corps, ok? La façon dont nous traitons notre corps. Car il y a une relation entre ce qui se passe dans le temple céleste avec ce qui se passe dans le temple terrestre de mon être. Or, le fait que Christ se trouve à l'endroit où se trouve l'arche de l'Alliance, laquelle contient les tables de l'Alliance, sur lesquels sont inscrits les 10 paroles de l'Alliance, c'est-à-dire les 10 commandements, indique clairement que Jésus a entrepris l'œuvre du jugement. En Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 et 14, il est dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Il y a des gens qui ont émis l'idée qu'il n'y a que les méchants qui seront jugés. Mais mes amis, ici, la Bible nous dit que l'on ait fait du bien, que l'on ait fait du mal, on sera jugé, mes amis. Méchant, bon, juste ou injuste, tous seront jugés. Et c'est pour cela qu'il nous est dit de craindre Dieu et de garder ses commandements. Notez cela dans le livre d'Ecclésiaste, bien avant la venue du Christ. Il fut dit de craindre Dieu et de garder ses commandements. La conclusion du discours de ce sage fut de craindre Dieu et de garder ses commandements. Pourquoi? Parce que c'est en raison du jugement. En raison du jugement. Ce qui nous amène directement en Apocalypse 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, le triple message qui précède la venue de Jésus représentée à partir du verset 14 du chapitre 14. Autrement dit, avant que Jésus ne revienne, c'est ce message-là qui est prêché sur terre. Ça veut dire que, alors que Jésus est en train d'œuvrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est ce message-là qui est prêché sur terre et qui prépare des hommes et des femmes au retour de Jésus. Et lisons-le ensemble. Apocalypse 14, versets 6 à 12. « Et je vis un autre ange qui volait... » Comment? Oh, il volait au ras du sol. Non? Non, c'est pas ça? Non, il vole au milieu du ciel, mes amis. Et il porte un évangile optionnel, c'est ça? Non, c'est pas un évangile optionnel? Ah bon? Il porte... Non, mes amis, il porte l'évangile éternel, mes amis. « Pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation... et tribus, et langues, et peuples. » Ce n'est pas un message qui est destiné simplement aux habitants de la Martinique, ou aux habitants de la France, ou de la Guyane. Parce que bien souvent, on pense que peut-être que c'est ça, ou à certains pays. Non, mes amis, c'est à toute nation, tribus, langues, et peuples. En disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est exactement ce que nous disait le sage en Ecclésiaste, en fait. Crains Dieu et garde ses commandements à cause du jugement. Et là, on voit ces trois notions-là, en fait. Craindre Dieu, OK, et garder les commandements se trouve à quel endroit? En fait, c'est la signification même de craindre Dieu, en fait. Lorsque vous lisez Deutéronome 6, verset 4, lorsque la raison pour laquelle Dieu a donné, et quand il explique pourquoi il a donné ses commandements aux enfants d'Israël, il leur dit... C'est afin que vous me craigniez, en fait. D'accord? Et après, on voit que c'est marqué d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Là, c'est le Dieu créateur, en fait. Ce sont les caractéristiques que l'on retrouve dans le commandement, dans le quatrième commandement du Décalogue. Donc, cela fait référence à la loi de Dieu et au Dieu créateur. Donc, notez cela. En raison du jugement, là, le jugement arrive. Donc, ce message-là prépare, il annonce à l'humanité que Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qu'il va commencer l'œuvre du jugement, l'œuvre de la purification. Et c'est pour cela qu'il faut craindre Dieu, garder ses commandements et lui donner gloire. On a vu ce que signifie lui donner gloire, d'accord? Car l'heure du jugement est venue et d'adorer le Dieu créateur, pas une idole, le Dieu créateur. Le Dieu du sabbat, pas le Dieu du dimanche. Le Dieu du dimanche, c'est qui? C'est qui? C'est la Trinité, mes amis. C'est exactement ça. Par contre, le Dieu du sabbat, c'est qui? C'est le Père, mes amis, le Père qui a tout créé par Jésus, son Fils. Et c'est pour ça que Jésus est le maître même du sabbat. D'accord? Donc, le premier ange nous dévoile tout ça. Et ça, c'est l'évangile éternel, mes amis. Ce message-là, normalement, aurait dû suffire. Ce message-là devrait normalement suffire. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne l'ont pas accepté. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé un deuxième message au verset 8. Et un autre ange le suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur, de son impudicité. » Ce message s'adresse aux croyants, autrement dit aux églises qui ont rejeté le message du premier ange. Et jusqu'à présent, mes amis, et permettez-moi de vous le dire avec puissance et force, sans broncher, que ce message encore s'applique à toute église qui rejette le message du premier ange, qui est l'évangile éternel. C'est-à-dire que les églises, mes amis, qui refusent de craindre Dieu, refusent de garder ses commandements et de lui donner gloire, et qui n'en ont qu'à faire du message du commencement du jugement. Le message lié au sanctuaire, d'accord? Jugement, purification. Et qui n'adorent pas le Dieu créateur. Mes amis, Dieu a dit depuis 1844 que c'est Babylone. Le verdict a déjà été donné, mes amis. Le verdict a déjà été donné. Et Dieu ne change pas. Et ces églises-là, qui sont dans cette condition de Babylone, elles vont mettre en place, ces églises protestantes-là, elles vont se liguer de manière à servir les desseins de l'Église de Rome. Et c'est pour cela que Dieu envoie un troisième message, pour mettre en garde toutes celles et ceux qui veulent craindre Dieu et lui donner gloire, d'accord? Pour leur dire de faire très attention, pour donner un dernier avertissement. Car il y a deux catégories maintenant. Ceux qui acceptent le message du premier ange et ceux qui refusent ce message et qui deviennent Babylone. À ce moment-là, il y a deux catégories. Et là, Dieu envoie un dernier message pour bien avertir, pour avertir toutes celles et ceux qui, consciemment ou inconsciemment, se sont rangés du mauvais côté, pour leur dire de faire très attention. Et il les met en garde, d'accord? À partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire la papauté, et son image, autrement dit, ce protestantisme apostat, ce faux prophète-là, d'accord? Qui sert les desseins de la bête. Et s'il en prend la marque au front, la marque, c'est la loi du dimanche. Au front, c'est-à-dire consciemment, ils y croient, d'accord? Ils sont d'accord avec l'enseignement. Ou à la main, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils le font juste pour des intérêts matériels, juste pour pouvoir avoir leur subsistance, ok? Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des cinq anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, mes amis, le message de préparation. Le message de préparation qui va de pair et qui est destiné à préparer sur terre un peuple pour le retour de Jésus. C'est le message qui doit être proclamé sur terre alors que Jésus est en train d'œuvrer au ciel. C'est le message, le dernier message qui doit être annoncé sur terre alors que Jésus est en train d'accomplir la phase finale de son œuvre, mes amis. C'est la vérité présente. C'est la vérité présente, mes amis. Ce sont les enseignements qui sont destinés à préparer un peuple au retour de Jésus, à le mettre en garde contre toutes les séductions de Satan. Voilà la vérité présente, mes amis. J'aimerais que nous puissions considérer quelques déclarations de l'inspiration ensemble. Dans Premiers Écrits, à la page 63, paragraphe 1 et 3, il nous a dit « J'ai vu combien il est nécessaire que les messagers veillent et sachent repousser tout fanatisme qui pourrait faire son apparition. Satan nous attaque de tous les côtés. Si nous ne veillons pas, si nous ne discernons pas ses pièges, si nous ne revêtons pas toute l'armure de Dieu, les dards enflammés du malin nous atteindront. » Il y a de nombreuses vérités dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité présente que le troupeau a besoin aujourd'hui. J'ai vu le danger que couraient les messagers en se détournant de certains points importants de la vérité présente pour insister sur des sujets qui n'ont pas pour but d'unir le troupeau et de sanctifier l'âme. Satan profitera de tous les avantages possibles pour faire du tort à la cause. Mais des sujets comme le sanctuaire, en rapport avec les 2300 jours, les commandements de Dieu et la foi de Jésus expliquent très bien le passé du mouvement adventiste. Ils montrent ce que nous croyons, affermissent la foi de ceux qui doutent et donnent de la certitude à la gloire future. J'ai vu fréquemment que c'était là les sujets principaux sur lesquels les messagers devaient insister. Notons ensemble ce que la messagère déclara ici. C'est de la vérité présente dont nous avons besoin, déclara-t-elle. Elle a dit essentiellement la même chose que Pierre, qu'il ne négligerait pas. Rappelez-vous, je vous le remets. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoi que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. C'est de la vérité présente dont nous avons besoin, mes amis. Et c'est ce que la message nous déclara comme l'apôtre Pierre. Ce n'est pas d'autre chose. Nous n'avons pas besoin de sujets mineurs, mes amis. Et bien souvent, il y a des gens que Satan égare et qui viennent au peuple de Dieu et qui veulent faire le peuple de Dieu se concentrer sur des sujets mineurs, mes amis. Or, c'est de la vérité présente dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il dit, ici, elle dit que ce sont des messagers. Il y a des messagers qui n'ont même pas de message. Ah oui, ils ont un message. Oui, ils ont un message. Ils vont vous apporter une petite histoire de la Bible, un petit truc bien gentil, qui n'est pas mauvais en soi. Hein? Mais ce n'est pas ça qui va vous nourrir, en fait. Ce n'est pas ça qui va vous nourrir. Il y a quantité de gens qui me contactent, qui me disent que dans leurs églises, quand ils sortent de leur église, ils sortent à vide. Ils sortent aussi vide qu'ils sont rentrés. Ils sortent aussi vides qu'ils sont rentrés. Mais pourtant, ils ont la Bible. Hein? Ils lisent la Bible du pupitre, hein? Du haut de la chair. Hein? Mais quand ils sortent de là, ils sortent à vide. Pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas la vérité présente. On ne leur donne pas la vérité présente. On ne leur prêche pas le sanctuaire dans les églises protestantes. Baptiste, pentecôtiste, adventiste du septième jour moderne. On ne leur prêche pas ces sujets-là, le sanctuaire, les 2300 soirs et matins, les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes là? Ah oui, non, qu'est-ce que tu racontes là? C'est moi qui ai des connaissances fondamentales. Ah bon? Présentez-moi un pasteur qui a fait une étude complète sur les commandements de Dieu et qui a détaillé ça à l'église. Présentez-moi un pasteur dans la dénomination qui a fait une étude complète sur la foi de Jésus et qui a détaillé ça à l'église, mes amis. Dans la dénomination, je parle, hein. OK? Ou peut-être, oubliez-vous peut-être que l'Église adventiste moderne ne croit plus du tout en l'expiation finale. Ça, c'est un fait, mes amis. Tout comme l'église pentecôtiste baptiste, malheureusement, l'organisation adventiste moderne ne croit plus en l'expiation finale. Autrement dit, l'organisation moderne a rejeté la vérité présente. Je le dis haut et fort, ça va gêner certains, encore une fois. Il y en a qui vont être fâchés avec moi, qui vont encore m'accuser de plein de choses, qui vont m'accuser d'être un gourou, qui vont m'accuser de plein de choses. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis un truc franchement. Je suis très content qu'ils m'appellent gourou. En fait, ça ne me pose pas de problème, en fait. Pourquoi? Parce que je les appelle faux bergers. Donc, ils peuvent m'appeler gourou. C'est équitable. Voilà. Je les appelle faux bergers et ils m'appellent gourou. OK? On leur dit ce que Dieu nous dit de leur dire, Babylone, et eux, ils nous disent ce que l'ennemi leur dit de nous dire, vous êtes une secte. Il n'y a pas de souci. Mais la secte de Jésus que vous appelez, elle s'appuie sous la Bible. D'accord? Voilà. La Bible est l'esprit de prophétie. D'accord? Et l'esprit de prophétie chez nous, ce n'est pas dans des placards. D'accord? On le sort et on le lit au peuple et on explique au peuple ce que ça signifie et on ne rejette aucun passage. Que personne ne vienne dire que Jean-Christophe Blotte rejette un passage de l'esprit de prophétie. Jamais vous ne verrez ça, mes amis. Tant que Dieu me prête la vie et je le supplie de m'aider, je ne veux pas le faire et je ne le ferai pas. Au nom de Jésus, mes amis. Au nom de Jésus. L'état des morts aussi fait partie de la vérité présente. Je passe là-dessus rapidement. Premier écrit, page 87, paragraphe 2. Je vis que les saints devaient bien comprendre la vérité présente, qu'il leur faudrait défendre par les Écritures. Ils doivent connaître l'état des morts, car les esprits des démons leur apparaîtront, prétendant être leurs parents ou leurs amis. Ils leur affirmeront que le sabbat a été changé et leur présenteront d'autres doctrines contraires à l'Écriture. Ils feront l'impossible pour gagner leur sympathie. Ils opéreront des miracles en leur présence pour confirmer leur déclaration. Les enfants de Dieu doivent se préparer à résister à ces esprits maléfiques. Comment? Bible en main. Qu'ils comprennent que les morts ne savent rien et que ces esprits qui leur apparaissent ne sont autres que des esprits de démons. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ce qui nous entoure, mais être occupés par quoi? Par la vérité présente, afin de pouvoir donner les raisons de notre foi. Il nous faut la sagesse d'en haut pour triompher de l'erreur et des séductions du diable. Mes amis, c'est Bible en main, mes amis. Comme dit Angelo, il ne faut plus lire la Bible, mes amis. Il faut étudier la Bible, mes amis. Il faut être dans l'étude. Il y a des gens qui n'ont pas encore lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ils l'ont fait 5 fois. Mais sont-ils capables de donner une étude biblique à quelqu'un? C'est bien beau d'avoir lu la Bible. Mais est-ce qu'on est capable de donner une étude biblique à quelqu'un? On croise quelqu'un dans le supermarché ou dans la rue et la personne nous pose des questions. Est-ce qu'on est capable de lui expliquer les points principaux de la vérité présente? Je vous pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Hein? C'est juste pour que vous puissiez réfléchir pour vous-même. Est-ce que vous êtes capable, Bible en main, d'expliquer le sanctuaire aux gens? Les commandements de Dieu aux gens, leur validité, la foi de Jésus aux gens, l'état des morts. Est-ce que Bible en main, tous ces points-là, mes amis, est-ce que vous êtes capables de le faire? L'esprit de prophétie nous dit que nous devons être capables de le faire, mes amis, car autrement, nous-mêmes, on risque d'être en difficulté, car il y a des esprits séducteurs qui vont venir. Et n'attendez pas que ce soit véritablement des manifestations spirites, hein? Parce que mes amis, dès maintenant, cela se passe. Notamment avec des personnes littérales, des personnes réelles, d'accord, qui sont animées de l'esprit de Satan et qui viennent vers les enfants de Dieu pour les faire douter de la vérité biblique. D'accord? Premier écrit, page 43, paragraphe 1. Les ennemis de la vérité présente ont essayé de rouvrir la porte du lieu saint que Jésus avait fermé et de fermer la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte en 1844 où se trouve l'arche contenant les 2 tables de pierre sous lesquelles sont gravés par le doigt de Dieu les 10 commandements. Actuellement, pendant le scellement, Satan déploie tous ses artifices pour détourner le peuple de Dieu de la vérité présente et le faire hésiter. J'ai vu que Dieu avait jeté un manteau sur son peuple afin de le protéger pendant le temps de trouble et que toute âme qui a accepté la vérité et dont le cœur est pur sera couverte par le manteau du Tout-Puissant. Notez quelque chose. C'est que la messagère dit que les ennemis de la vérité présente ont essayé de faire quoi? De rouvrir la porte du lieu saint que Jésus avait fermé et de fermer la porte du lieu très saint que Jésus avait ouverte en 1844. Mes amis, de quoi parle-t-elle ici? Qu'est-ce qui est concerné par cela aujourd'hui? Celles et ceux qui refusent le message de la purification, celles et ceux qui rejettent, mes amis, la vérité présente. Oui, car la vérité présente, mes amis, on l'a vu, c'est l'évangile éternel, c'est le pardon et la purification, la justification et la sanctification, mes amis. Et à l'heure actuelle, Christ est en train de purifier le sanctuaire céleste. Mais pour que cela soit fait, il faut d'abord que le sanctuaire terrestre soit purifié, mes amis. Or, c'est ce que l'Église dominale est en train de faire depuis 1980 officiellement, mais officieusement depuis l'ouvrage Question on Doctrine dans les années 1950, ils ont rejeté l'expiation finale, en fait. Autrement dit, ils ont fermé la porte du lieu très saint et rouvert la porte du lieu saint. Et disent aux gens, allez adorer dans le lieu saint, mes amis. Vous allez trouver que je suis radical. Il y a des gens qui vont me dire que je suis radical. Mais mes amis, je ne suis pas radical. Vous n'avez qu'à prendre ce que croient les adventistes et l'ouvrage moderne, et vous cherchez où est marqué expiation finale. Zéro fois c'est marqué, mes amis. Zéro fois c'est marqué. Ils ont rejeté ça, en fait. Ne me dites pas que je suis radical, car dans les églises nominales, vous avez des pasteurs qui sont radicaux. Oui, qui sont radicaux dans le libéralisme et qui disent qu'il n'y a pas de sanctuaire. Et qui vont même, il y a une sœur m'a dit qu'ils ont même fait un vote pour savoir si les gens croyaient dans le sanctuaire et personne n'a levé sa main. Et il n'y avait que la sœur qui avait levé sa main pour dire qu'elle croyait dans le sanctuaire. Un pasteur de l'organisation Adventiste moderne a fait un vote pour savoir si les gens croyaient dans le sanctuaire. Ils ne croient plus dans le sanctuaire. Et cela est manifeste. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. Je vous le dis sincèrement. Ne pas l'admettre, c'est être malhonnête, mes amis. Donc, on ne peut pas, en fait, être dans l'église nominale et être dans ce message, en fait, de vérité présente. Ce n'est pas possible. Parce que là-dedans, c'est des ennemis de la vérité présente, en fait. Ils sont ennemis de la vérité présente. Or, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, en fait. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, mes amis. C'est soit on est dans la vérité présente, en conformité avec ce que Jésus fait dans le ciel, et sur terre, on le vit franchement, et on le vit avec des frères et sœurs qui le vivent aussi, ou soit on ne l'est pas, en fait. Ou soit on ne l'est pas. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ma voix en ce matin, quelle que soit l'organisation religieuse de laquelle tu es membre, et je précise de laquelle tu es membre, sache que Jésus t'a dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est soit tu le suis, lui, l'agneau, partout où il va, et en ce moment, il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et il fait l'expiation finale. Et donc, cela signifie que toi aussi, dans ta vie, tu dois mener l'expiation finale dans ta vie et tu dois marcher en conformité avec l'expiation finale. Ce qui implique que tu te sépares d'une organisation religieuse qui ne croit pas en l'expiation finale. Ou tu ne veux pas le suivre. Et à ce moment-là, il est normal que tu décides de rester là où tu es. dans l'église baptiste, dans l'église pentecôtiste, l'église catholique, l'église adventiste du septième jour moderne, qui ne croit pas en l'expression finale, qui ne croit plus en la vérité présente. Mais par contre, il y a une seule chose qu'il faut savoir, c'est que il faut prendre une décision. Ton Dieu t'a dit de prendre une décision. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Mais si c'est Baal qui est Dieu, la Trinité avec son expiation en une seule phase, d'accord? L'évangile du pardon, 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 mais il n'y a pas de purification. Donc un évangile bradé, soldé, à moitié prix. Là, mes amis, il faut aussi prendre une décision. Il faut aussi prendre une décision. C'est pour cela que je lance un appel à vous tous qui entendez ma voix ce matin. Vous tous qui êtes encore membres de l'organisation, de quelque organisation qui rejette la vérité présente, dont l'organisation adventiste, d'accord? Je vous invite à prendre une position, d'accord? Parce qu'il y a quelques minutes, j'envoyais un message aux inconnus bien connus qui sont sous la ligne le soir et qui veulent faire déplacer le message. Je le dis simplement, les gens qui ne prennent pas de position, les gens qui ne s'engagent pas dans la vérité, les gens qui n'entrent pas dans la vérité présente, par la porte d'entrée que Jésus a choisie, d'accord? Quelle est cette porte d'entrée? Quelle est cette porte d'entrée? Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, mes amis, c'est le baptême, mes amis. C'est le baptême. Nous respectons votre choix. Mais respectez le choix de l'Église de Dieu dans la vérité présente. Aussi. Personne ne vous force et personne ne nous forcera non plus. Nous suivons Jésus et son enseignement et nous voulons continuer à le faire dans l'humilité, dans la vérité. Mais nous ne vous forçons pas à rester dans vos péchés et vous ne nous forcerez pas non plus à nous détourner du sentier étroit de la parole de Dieu, de la vérité présente. Mais en tout cas, je le dis, et il y a une porte d'entrée, d'accord? Une porte d'entrée pour sortir de Babylone et pour entrer dans la vérité présente, et c'est le baptême. Et ça, je le dis, et il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Comme il écrit, page 47, paragraphe 1, Dieu m'a montré qu'il donnait à son peuple une coupe amère à boire afin de le purifier. C'est un breuvage désagréable, mais qui le sera bien davantage si nous murmurons. Nous devrons alors en absorber un autre si le premier n'a pas produit l'effet voulu sur le cœur. Et si le second ne réussit pas, il faudra en absorber un autre jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré. Sinon, nous resterons impurs. J'ai vu que cette coupe amère peut être adoucie par la patience, la persévérance et la prière, et qu'elle produira son effet sous le cœur de ceux qui la reçoivent ainsi. Alors Dieu sera honoré et glorifié. Ce n'est pas peu de chose que d'être chrétien, d'appartenir à Dieu et d'être approuvé par lui. Le Seigneur m'a montré quelques-uns de ceux qui prétendent croire à la vérité présente, mais dont la vie ne correspond pas à leur profession de foi. Le niveau de leur piété est beaucoup trop bas et ils sont loin d'atteindre la sainteté biblique. Quelques-uns se livrent à des conversations vaines et déplacées. D'autres cèdent à l'orgueil. Nous ne pouvons rechercher ce qui nous plaît, vivre et agir comme le monde, chérir sa compagnie et ses plaisirs, puis régner avec le Christ en gloire. Mes amis, Dieu va nous donner des coupes à boire. Mais ce n'est pas le murmure. Si nous murmurons et que nous n'avons pas l'habitude de murmurer alors que Dieu nous donne ce breuvage qui n'est pas agréable, si nous murmurons, mes amis, on sera trouvé trop léger. Et nous aurons un autre et un autre jusqu'à ce que nous puissions le boire, l'ingérer. Car Dieu désire que l'effet qu'il attend arrive. Il nous faut avoir la patience des saints, la persévérance. Avoir l'approbation de Dieu. Encore un autre point. Premiers écrits, page 49, paragraphe 1 et 2. J'ai vu que de pauvres âmes qui se mouraient parce qu'elles ne connaissaient pas la vérité présente et que quelques-uns de ceux qui y prétendaient y croire les laissaient périr, comment? En retenant les moyens nécessaires pour leur communiquer la parole de Dieu. J'en fus très peiné et je demandais à l'ange de m'épargner ce spectacle. J'ai vu que lorsque la cause de Dieu exigeait que l'on sacrifie ses biens pour la faire progresser, comme Jésus le demanda au jeune homme riche, Matthieu 19, verset 16 à 22, certains s'en allaient tout tristes. Ils ne se doutaient pas que bientôt leur richesse leur serait enlevée et que ce sera trop tard pour en faire le sacrifice afin de s'assurer un trésor dans le ciel. Puis je vis encore, le paragraphe 3, ceux qui n'étaient pas disposés à sacrifier les biens de ce monde pour sauver les pécheurs, en leur faisant connaître la vérité, alors que Jésus se tient encore devant le Père et offre son sang, ses souffrances et sa mort pour les sauver. Tandis que des messagers du Seigneur attendent, prêts à leur communiquer la vérité pour qu'ils puissent recevoir le sceau du Dieu vivant. C'était dur pour quelques-uns de ceux qui prétendent croire à la vérité présente de donner aux messagers ne fût-ce qu'un peu de l'argent que Dieu leur a confié comme à des économes. Voilà un témoignage de la messagère du Seigneur par rapport à la vérité présente, toujours dans le contexte de la vérité présente. Est-ce que j'aime l'Évangile? Si j'aime l'Évangile, normalement, je devrais aimer voir l'Évangile se propager. Mais ici, et à son époque même, il y avait des gens qui disaient aimer l'Évangile, qui étaient dans la cause de la vérité présente. Ils disaient aimer la vérité présente. Ils disaient être membre de la vérité présente. Oui, on est dans la vérité présente. Mais quand il faut soutenir les messagers de la vérité présente pour qu'ils aillent faire progresser cette vérité présente, certains d'entre eux ne sont pas là. La messagère dit, j'ai demandé à l'ange de m'épargner ce spectacle. Ce n'est pas un spectacle qui est agréable, mes amis. En tout cas, ça n'a pas été pour elle. Mais il faut savoir un truc, comme elle l'a dit, c'est que on aura rendu compte à Dieu, mes amis. Les richesses que je garde, que je n'ai pas envie de donner pour l'avancement de la vérité présente, bientôt, ces richesses vont rester sur mon compte en banque, qui va être saisi. D'accord? Et je ne pourrai plus rien faire, en fait. Et cet argent que j'aurais mis de côté, parce que j'aurais voulu m'enrichir en volant Dieu, il va témoigner contre moi, en fait. Et j'aurais perdu mon trésor dans le ciel, mes amis. Des âmes périssent. Il y a des âmes qui périssent, mes amis, dit-elle. Parce que des soi-disant croyants dans la vérité présente ne soutiennent pas la vérité présente. Ah, mais je donne ma dîme. Oui, mais je soutiens l'œuvre. Non, mais je suis fidèle à Dieu. Mais tu donnes ta dîme pour soutenir le mensonge présent, pas la vérité présente. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ce n'est pas que le fait de retenir volontairement et de ne pas donner du tout, en fait. Si je sais que là, on enseigne l'erreur et que je continue à soutenir des ministres qui enseignent l'erreur et que j'empêche à l'œuvre de la vérité présente d'avancer parce que je continue à soutenir l'erreur, c'est la même chose, en fait. Le principe est là. Je sais où est la vérité, mais je ne soutiens pas la vérité. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que c'est même pire, en fait. C'est même pire. Sous certains aspects. En conclusion, Nous savons que la vérité est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour mener à bien l'œuvre de purification et de jugement. Nous savons maintenant où la vérité est présente. Nous savons maintenant, je dis bien, où la vérité est présente. Mais la question, mes amis, que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que la vérité est présente en nous? Oui. Est-ce que la vérité est présente en nous? Est-ce que Jésus arrive à mener à bien son œuvre de purification des péchés dans notre vie, de telle sorte que nous soyons rendus capables, par sa grâce, d'observer les 10 commandements qui sont la norme selon laquelle nous serons jugés? En 1 Jean chapitre 2, verset 4, il est dit, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Mes amis, je prie afin que nous ne soyons pas trouvés menteurs en professant le nom de Jésus tout en désobéissant aux commandements de son Père. Puisse la vérité être présente en nous, selon qu'il est écrit en Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Voilà, mon ami, comment la vérité peut être présente en toi, en moi. C'est si le « moi » qui est chez toi meurt, si notre moi, il meurt. À ce moment-là, Christ peut apparaître. Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, il peut apparaître et être présent en chacun d'entre nous. Telle est ma prière, mes amis, pour chacun d'entre nous. Puisse la vérité présente, eh bien, être en nous. Puissions-nous vivre cette vérité présente et que Christ, l'espérance de la gloire, soit en nous. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la vérité présente, Seigneur. Merci pour Christ que tu nous as donné et qui en ce moment même œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et est en train d'accomplir la phase finale de son œuvre médiatrice en notre faveur. Et il désire accomplir et réaliser l'objectif de l'Évangile dans nos vies, à savoir le pardon et la purification, notre justification, mais aussi notre sanctification. Et Père, nous voulons de cet évangile complet, entier, le seul, l'éternel. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous aider, Père, à croire dans la vérité présente, à comprendre cette vérité pour notre temps, et que nous puissions la vivre, et que nous puissions l'annoncer, la proclamer, et que nous puissions aussi la soutenir, Père, et que nous puissions réaliser que nous ne pouvons pas jouer avec celle-ci. Aide-nous, Père, à prendre une position claire à tes yeux, mais aussi aux yeux des hommes et des anges, pour leur montrer que nous prenons position pour la vérité présente. Père, je te prie spécialement en ce moment pour toutes celles et ceux qui entendent la vérité présente, pour toutes celles et ceux qui ont fini intellectuellement par accepter cette vérité, mais qui ne se sont pas encore positionnés de manière claire par l'engagement que tu as mis. Je te prie de toucher les cœurs, Père, afin que non seulement devant toi, mais aussi devant les hommes et les anges, eh bien, ils puissent être reçus que X, Y, Z ont pris position pour la vérité présente, Père. Car on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas manger à deux tables. On ne peut pas être dans deux messages en même temps. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a qu'un seul Jésus qui est le Fils de Dieu et qui, en ce moment, fait l'expiation finale. Alors, aide chacun d'entre nous, Père. Chacun d'entre nous, Père. Chacun de ceux qui ont entendu ce message, qui vont l'entendre, à prendre une position, à choisir Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en son nom que nous t'en prions, Père. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.